Problème de l'un, voir comment l'un touche directement ce qui est, alors que le devenir affecte immédiatement le mouvement. Donc on comprend très bien que cette grande distinction dans la philosophie grecque entre l'être et le devenir peut se traduire par le problème de l'un et du multiple. C'est ça que je crois qu'il faut bien saisir. Il faut, d'autre part, comprendre que si l'un affecte l'être, l'un ne peut pas être premier. Il est premier par rapport à la vie de l'intelligence. Je n'ose pas dire que l'intelligence saisit d'abord l'un avant de saisir l'être. Ce serait faux de dire ça. Mais il faut comprendre que l'intelligence saisit l'être et que l'un vient immédiatement après, mais qu'il y a, par rapport au conditionnement de notre vie intellectuelle, parce que l'un se découvre et s'explicite par la négation, et que la négation est plus proche de notre subjectivité, je ne dis pas de notre intelligence, mais de notre subjectivité que l'affirmation, je peux comprendre par là comment l'un est plus proche de ma subjectivité que l'être. Vous voyez ? Alors, il ne faut pas dire... Et si je confonds l'intelligence et la subjectivité, je dirais que l'un est plus proche de l'intelligence. Mais si je fais la distinction entre le sujet connaissant et l'intelligence, je dirais que le sujet connaissant, dans son exercice, est plus proche de l'un que de l'être. Parce que l'un apparaît par la négation, alors que l'être apparaît dans l'affirmation. Oui. Alors, c'est donc le même problème que l'affirmation et la négation qu'on retrouve là. Et l'un explicite ce problème-là. Pour l'intelligence comme intelligence, l'affirmation est première. Mais pour le sujet connaissant, la négation peut apparaître comme première. Parce qu'au niveau de la conscience et de la subjectivité, la négation est plus consciente. Et donc l'un est plus conscient que l'être. C'est curieux, mais je crois profondément que c'est vrai. J'ai une conscience plus nette de ce que c'est que l'un que ce que c'est que l'être. Parce que l'être, je le saisis dans l'affirmation, et que l'un, je le saisis dans la négation. Donc vous retrouvez ici les problèmes de l'un, du problème de l'être et de l'un, pour essayer de comprendre le rapport entre les deux, un rapport analogue entre l'affirmation et la négation. C'est donc quelque chose de très très important de saisir ces deux aspects-là, et de comprendre comment on glisse facilement de l'être à l'un, et quand on glisse de l'être à l'un, tôt ou tard, on arrivera au primat de la négation. Dans le climat grec, où il y avait le poids de la tradition religieuse, qui était si fort, surtout chez les néoplatoniciens, alors l'un est pris dans sa transcendance. Mais dans la laïcisation d'une pensée philosophique telle que dans notre monde d'aujourd'hui, si on met l'un avant, la négation passe avant. Et alors on arrive à faire une philosophie de la négation, du primat de la négation. Vous voyez, il faut saisir ces liens au point de vue philosophique. Nous avions donc vu comment le point de vue de la substance et de l'acte permettait de comprendre le pourquoi de l'un par rapport à ce qui est. Pourquoi ce qui est-il un ? C'est parce qu'il a en lui la substance. Pourquoi ce qui est un ? Parce qu'il est en acte. Donc la raison qui me permet d'expliciter le lien qui existe entre l'un et l'être, entre l'être et l'un, c'est d'une part le point de vue de la substance, d'autre part le point de vue de l'acte. Je peux à partir de là comprendre immédiatement la même chose pour le multiple, mais pas tout à fait de la même manière. on ne raisonne pas de la même manière sur le multiple que sur l'un. Ce serait même très curieux à voir. Parce que peut-être qu'on raisonne juste d'une manière inverse. Ce qui serait assez normal, du reste. Puisque le multiple, par définition, c'est ce qui provient de l'un. Ce qui provient de l'un. C'est ce qui provient de l'un en se désagrégeant. Le multiple naît d'une désagrégation de l'un. Quand l'un a sa tenue parfaite, il évacue le multiple. Mais quand l'un n'a plus sa tenue parfaite, le multiple apparaît. C'est très curieux, ça, la désagrégation de l'un dans le multiple. Alors comment se fait cette désagrégation ? Elle se fait en premier lieu par le point de vue des accidents et le point de vue de la potentialité. Alors, il faut comprendre comment la potentialité est source lointaine, mais fondamentalement, elle est source de toute multiplicité. Dès qu'il y a potentialité, il y aura multiplicité. Et les accidents sont la multiplicité en acte. Et il faut bien comprendre que le multiple montre donc les divers états de ce qui est. Le multiple n'est pas même être. Le multiple implique une certaine manière d'exister. C'est une existence dans la potentialité et une existence dans l'accidentel. Pour bien comprendre ce que c'est que l'accident, il faut regarder le multiple. Pour bien comprendre ce que c'est que la potentialité, il faut regarder le multiple. Donc on peut dire que le multiple est la manifestation de la potentialité. C'est la manifestation de la potentialité et c'est la manifestation d'un ordre accidentel. Si on était uniquement devant un ordre qui se tient par lui-même, c'est-à-dire le point de vue de la substance, le multiple n'apparaît pas. Si on regarde le point de vue de l'acte, le multiple n'apparaît pas. Alors, il y a tout un gros problème, je ne vais pas le traiter avec vous parce que je veux regarder la dernière partie de la métaphysique ensemble, du moins la dernière partie, comprenez bien, le dernier point d'orgue de l'analyse de la philosophie première, le problème de la personne. Mais voyons bien qu'avec le problème de l'un et du multiple, il y a tout de suite le problème des oppositions. Et ceci, c'est quand même très important. Il y a une opposition constante entre l'un et le multiple. Une opposition qui peut se comprendre à des niveaux différents, qu'on fait le séminaire sur les oppositions, n'est-ce pas, qui montre qu'il y a des oppositions différentes. Eh bien, le fondement de la métaphysique des oppositions, c'est le problème de l'un et du multiple. Alors ça, c'est intéressant à comprendre au point de vue ontologique. Vous voyez, l'être se divise en substance et accident. C'est la division. Et l'un et le multiple, c'est l'opposition. Je vous dis, l'un et le multiple ne divisent pas au sens strict l'être. Ils divisent l'être à travers la substance et à travers l'acte, mais pas directement. Et c'est pour ça que ça présuppose la division de l'être, et c'est le problème de l'opposition qui apparaît. Toute opposition présuppose une division. C'est forcé. Mais le problème de l'opposition n'est pas le problème de la division. C'est un problème un peu plus lointain, un problème dégradé, les oppositions. C'est plus facile les oppositions que la division. Il faut diviser pour régner. Il faut diviser pour que les oppositions existent. Alors vous voyez là, on aurait tout le problème. Alors il faudrait se poser la question, quelle est la relation qui existe entre l'un et le multiple ? Et alors là, c'est tout de suite le problème de voir que peut jouer le rôle de l'un par rapport au multiple. Et alors, si je regarde la fonction de l'un par rapport au multiple, je vois tout de suite ce très gros problème philosophique de la mesure. L'un joue le rôle de la mesure. Alors, il y a deux problèmes métaphysiques qui sont à rattacher à l'un. Je ne les traite pas, je vous fais que les signaler. On est obligé d'aller vite sur certains problèmes, on ne peut pas tout voir. Alors, voir le lien entre l'un et la mesure, et l'un et la cause exemplaire. qui est quand même très important. Puis le troisième problème très important, c'est l'un et la participation. Et donc il y a trois problèmes qui se tiennent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le lien entre la causalité exemplaire et la participation. Et le lien entre la causalité exemplaire et la mesure. Oui. Donc ceci fait partie du problème métaphysique de l'un. Et du lien qui existe entre l'un et le multiple. La participation, elle est toujours dans le multiple. La causalité exemplaire, elle est toujours dans l'un. Et là, mesure le multiple. L'un est imparticipable, par définition. Quand vous êtes en face de l'un, vous êtes en face de quelque chose qui n'implique pas la participation. Pour qu'il y ait participation, il faut nécessairement multiplicité. Et alors, que joue le problème de la participation ? C'est le problème de l'ordre. Or, la diversité, l'un dans la diversité implique l'ordre et implique la mesure. Vous voyez, c'est comme ça que vous arrivez à comprendre que ces problèmes se tiennent. Ils se tiennent très profondément. Mesure, cause exemplaire, participation, ordre. Alors, il y en a qui regardent plus immédiatement le multiple. Pour qu'il y ait un ordre, il faut qu'il y ait une diversité, donc une multiplicité. Comment il n'y a pas d'ordre ? Je suis en face de l'un. L'un n'implique pas d'ordre. Mais l'un peut mesurer le multiple et l'ordonner. Un multiple, une diversité mesurée, elle est ordonnée. Et la participation va impliquer comme un fondement de l'ordre. Vous voyez, un des très gros problèmes qui existent aujourd'hui, on dit tout le temps la participation est le fondement de l'analogie. Ça fait partie de certaines thèses, de certains qui parlent de la participation, de l'analogie. Vous voyez la thèse du père Montagne, c'est de voir comment la participation est le fondement de l'analogie. C'est intéressant de se poser le problème, parce que est-ce que vraiment la participation est le fondement de l'analogie ? Non. La participation est le fondement d'un ordre. Partout il y a ordre, il y a participation. C'est impossible autrement. Mais ce n'est pas le fondement de l'analogie. L'analogie, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est la diversité dans l'unité. Ou c'est l'unité dans la diversité. Ça va plus loin. Alors vous allez dire, diversité dans l'unité, c'est l'ordre. Oui, oui, c'est l'ordre. Oui, mais c'est le fondement dernier. La participation repose sur l'analogie repose sur la division et non pas directement à la participation. Alors, ça, c'est un gros problème. Si on a le temps, on y reviendra à la fin, parce que c'est un très gros problème de voir ce que représentent exactement les liens entre la participation et la cause exemplaire. Ce que je voudrais signaler simplement ici, c'est le lien qui existe entre l'un et la mesure. Bon, je crois que c'est assez facile à comprendre dans l'ordre quantitatif. Dans l'ordre quantitatif, quand vous mesurez, tout le monde sait ce que c'est que mesurer, vous dites cette table, elle a tant, vous la mesurez. Vous avez fait cette opération sans penser du tout ce que c'était que mesurer. Réfléchissez, qu'est-ce que c'est que mesurer ? Mesurer, c'est donc diviser pour connaître. Quand j'ai mesuré quelque chose, je le connais mieux. C'est une connaissance très extérieure, mais c'est quand même une connaissance. Quand on a mesuré la Terre, on a cru connaître la Terre. Non ? Quand on mesure quelque chose, on croit le connaître, mais la mesure, c'est une connaissance extrinsèque. C'est jamais une connaissance intrinsèque. C'est une connaissance qui divise, par la mesure je divise, j'actue. Et je connais la quantité. La quantité se connaît par la mensuration. Est-ce que je peux connaître la qualité par la mensuration ? Donc, la mesure est un procédé de connaissance. Et ce procédé de connaissance repose sur l'un. Ça, c'est sûr. Je mesure à partir d'une unité. Je mesure à partir d'un talon. Je mesure à partir de quelque chose que j'ai considéré comme insécable. Vous voyez ? Conventionnellement, le mètre. Je mesure avec un mètre. je mesure avec le modulor, si je suis Le Corbusier. Et le modulor est une mesure qui essaie de mesurer à partir de là. On peut changer, c'est une originalité comme une autre, de prendre une autre mesure et de mesurer à partir de là. Mais ça fait tout de suite quelque chose de particulier. Donc on peut mesurer tout ce qui est divisible. Je ne peux pas mesurer l'indivisible. C'est ce... Donc l'un va mesurer le divisible. Le divisible, c'est une certaine potentialité. Ce n'est pas n'importe quelle potentialité, c'est une certaine potentialité. C'est la potentialité qui provient de la quantité. Alors, il y a un lien très particulier, vous voyez, entre l'un, la mesure et la quantité. Si je m'élève au-delà de la quantité, et que au-delà de la quantité, c'est quoi? C'est la forme. Puis, c'est l'être. Hein? C'est la forme, la qualité d'une forme. Hein? Vous allez dire la quantité d'une forme. Oui, mais c'est une forme tellement, tellement particulière. C'est une forme divisible, donc qui appelle l'un et la mesure. Si je m'élève au-delà de la quantité pour regarder la qualité, une qualité ne se mesure pas. Ça se goûte. C'est pas la même chose de mesurer. La qualité, ça se saisit. Il y a des gens qui ne connaissent que la quantité. Et ils se ramènent uniquement à la connaissance de la quantité. Et quand ils ramènent tout à la connaissance de la quantité, évidemment, ça se fait par le litre ou par le tonneau, ça dépend quel gabarit on a, n'est-ce pas ? Mais au fond, on mesure la quantité. La qualité, on ne sait pas ce que c'est. Et on ne veut pas le savoir ce que c'est. Peut-être parce qu'on a mauvais goût. Parce que si on est fiévreux, vous savez qu'on n'arrive plus à goûter. Alors quand une civilisation devient fiévreuse, elle ne sait plus ce que c'est que la qualité. Elle a perdu le sens de la qualité. Elle est dans la fièvre quarte. Alors elle ne sait plus ce que c'est que la qualité. Et c'est vrai, intellectuellement c'est comme ça aussi. Il y a une fièvre qui empêche de saisir ce que c'est que la qualité. La qualité est quelque chose d'indivisible. C'est une forme. Alors, c'est très curieux. L'un, dans le domaine de la forme, c'est quoi? C'est la cause exemplaire. La cause exemplaire, c'est au-delà de la mesure. Et je crois qu'on peut très bien considérer que l'un, dans le point de vue de la forme, c'est la cause exemplaire. Qu'est-ce que c'est que la cause exemplaire? C'est la forme idéale. C'est la forme idéalisée. Donc, c'est la forme pris pour elle-même dans sa pureté de forme. Il y a une pureté de forme dans la cause exemplaire. Et toute cause exemplaire provient d'une purification de la forme et d'une forme qui se purifie pour elle-même et en elle-même. Et une forme purifiée devient cause exemplaire. C'est pour ça que la cause exemplaire n'existe que dans l'intelligence. Elle n'existe pas en dehors. Oui, on peut dire qu'il y a des prototypes. Mais au fond, ce n'est pas une vraie causalité exemplaire. Ça joue le rôle de cause exemplaire. Mais c'est pas une... C'est quasi, vous voyez. Ça joue le rôle de la cause exemplaire. Mais ce n'est pas la cause exemplaire. La cause exemplaire, c'est toujours une forme portée dans l'intelligence. La vraie cause exemplaire, c'est ça. C'est la forme à l'état tout à fait pur. Vous voyez. C'est au-delà de la mesure. Ça va plus loin, la cause exemplaire, que la mesure. Les philosophies qualitatives sont les philosophies de la cause exemplaire. Voyez, dans le point de vue de Platon, le rôle de la causalité exemplaire. Ça, c'est très net, c'est très marquant. Et au fond, je ne crois pas que ça dépasse la cause exemplaire. Et l'induction même qu'il saisit d'avoir, c'est la cause exemplaire, c'est au niveau de la cause exemplaire. Il y a quelque chose de très intéressant, de très important, c'est l'ordre qualitatif. C'est la saisie de la forme pure. C'est donc saisir la forme une, pure. Vous voyez, c'est la pureté de la forme. Une forme qui est première. Cause exemplaire, c'est la forme première, c'est la forme pure, c'est la simplicité de la forme. c'est la forme à l'état absolument pur. Donc il y a toute la conception de la cause exemplaire. C'est important de comprendre que la cause exemplaire est reliée à l'un, comme la mesure. Alors, dans l'ordre de l'être, l'un n'est plus principe. Vous voyez ? Dans l'ordre de la quantité, l'un peut jouer le rôle de principe. Parce que la mesure, c'est un principe de connaissance. La mesure est un principe de connaissance. Donc l'un, dans l'ordre de la quantité, peut jouer le rôle de principe de connaissance. Dans l'ordre de la forme, l'un peut jouer le rôle de cause exemplaire. Cause exemplaire pour être la forme la plus pure. Dans l'ordre de l'être, l'un n'est pas principe. L'un est propriété. Alors, est-ce que je vais saisir là le problème de la participation ? Est-ce que la participation n'est-elle pas toujours saisie au niveau de la propriété ? Au sens très fort. La participation n'est jamais saisie au niveau de la cause, sauf de la cause exemplaire. Vous voyez, c'est pousser le point de vue de la cause exemplaire dans son enracinement dans l'être. Alors à ce moment-là, je regarde la participation. Qu'est-ce que c'est que participer ? Regardez ce que saint Thomas nous dit dans le De Hebdomadibus. C'est sûrement un livre que vous n'avez pas regardé, non ? Dans le De Hebdomadibus, saint Thomas commente Boès. Ce n'est pas traduit. Saint Thomas commence Boès. Et en commentant Boès, il commente le point de vue de la bonté participée. Et il dit que participer, c'est avoir part. C'est évident, participer. Je participe au bénéfice, c'est ce que ça veut dire. Hein. J'empoche, puisque je participe. La participation, vous savez, la participation, on en parle tout le temps, au point de vue économique, la participation. La participation des étudiants au conseil de faculté. Donc, avoir part aux décisions. C'est ça la participation, avoir part. Vous voyez, c'est de l'ordre de l'avoir. C'est pas de l'ordre de l'être. C'est de l'ordre de la propriété, donc. La propriété, c'est l'avoir. Mais alors, vous allez me dire, ah oui, mais bon, c'est quand même, hein, vous, là, c'est, vous parlez de laisser participer. Alors, vous voyez bien que c'est de l'ordre de l'être. Laisser participer. Attention, et c'est là où c'est très intéressant. Au niveau de l'analyse philosophique, la participation est au niveau de l'avoir. Ça, c'est net. Et c'est toujours au niveau de la propriété. Et donc, c'est grâce à l'un que je peux comprendre le problème de la participation. C'est dans la mesure où j'ai compris que l'un était propriété de l'être, donc l'avoir de l'être. C'est extraordinaire. C'est l'avoir de l'être. Les brebis grasses, elles sont une. Vous voyez ? Ça, c'est l'avoir de l'être. L'avoir de l'être, c'est l'un. Alors, il faut comprendre que du côté de l'analyse philosophique, la participation se ramène à l'avoir, se ramène à l'un. Mais quand je m'élève au niveau d'un jugement de sagesse, que je regarde tout dans la lumière de l'être premier, je dis que laisser participer. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Que laisser participer. Est-ce que, quand je parle de laisser participer, est-ce que j'atteins l'essai ? Ou est-ce que j'atteins la participation de l'essai ? Est-ce que c'est une connaissance nouvelle de l'être ? Ou est-ce que c'est tout simplement une manière particulière d'exister ? Vous voyez, le pause. Le dernier pause, c'est laisser participer. C'est le pause. Donc, c'est le dernier avoir. C'est une manière d'être. Ce n'est pas un principe. Alors, ça va jusqu'à l'essai. Et je peux dire ça grâce à l'être premier. C'est en fonction de l'être premier que je dis que tous les autres sont des essais participés. C'est en fonction de l'être premier. Oui, c'est en fonction de l'être premier. Donc c'est en fonction de l'un. Donc encore en fonction de l'un, je parle de l'essai participé. Et ça demeure dans l'ordre de l'avoir. Et donc une philosophie qui reste au niveau de la participation est une philosophie de l'avoir. Ce n'est pas une philosophie de l'être. C'est une philosophie qui demeure dans l'avoir. Damasius, je cite mes auteurs, comme vous ne le connaissez pas, je peux y aller. Damasius, il faut le regarder, Damasius. Damasius, qui est le dernier grand néoplatonicien, donc tous ceux qui aiment le néoplatonisme doivent lire Damasius. Proclus, Damasius, ce sont les grands néoplatoniciens. Damasius dit textuellement que la participation, c'est de l'ordre du comment. Donc c'est un néoplatonicien qui le dit. Parce que les grands néoplatoniciens parlent de la participation et de la causalité. Ils n'ont pas qu'une philosophie de la participation. Il faut les petits néoplatoniciens pour regarder uniquement la participation. Et alors à ce moment-là, vous avez Lavelle. Lavelle, c'est la philosophie de la participation. C'est un petit néoplatonicien. Ce n'est pas très fort. C'est la philosophie de l'avoir. Et alors vous avez la participation prise dans tout son domaine. C'est intéressant de voir ça, de voir que la participation conduit nécessairement au problème de l'avoir. Il ne faut pas négliger l'avoir, mais il ne faut pas s'y arrêter. Parce que l'avoir demeure dans l'ordre de la propriété. Alors l'avoir de l'être, c'est plus que la qualité, c'est l'essai, la forme des formes. Vous voyez ? C'est curieux ces choses-là. Et c'est intéressant d'essayer de comprendre comment Damasius, le dernier néoplatonicien, considère que le point de vue de la causalité se rattache à l'être, alors que la participation se rattache à la manière d'être, et non pas directement à l'être. La participation, c'est une manière d'exister. Donc, si vous ne regardez que cette manière d'exister, vous ne savez pas ce que c'est que l'être. Et donc, vous restez bien dans une philosophie de la manière d'exister, c'est-à-dire l'avoir. C'est ça qui est intéressant à comprendre, vous voyez ? C'est que au niveau l'un et la mesure, c'est le domaine de la quantité. L'un et la causalité exemplaire, c'est le domaine de la forme et de la qualité. L'un et la participation, c'est le domaine de l'avoir dans l'ordre de l'être. Alors vous pouvez de cette manière comprendre le rattachement de l'un, de la mesure, de la cause exemplaire, de la participation. C'est simplement ça que je veux signaler. Et ça donne matière à réflexion. Parce que c'est pas si commode que ça. C'est pas si commode que ça à saisir ces choses-là. Parce que c'est de fait, ça n'est pas dit explicitement. Vous voyez que dans Saint Thomas, on parle de la participation. Vous voyez que dans Saint Thomas, on parle de la causalité exemplaire. On voit comment dans Saint Thomas, on parle de la mesure. Mais on ne fait pas le rattachement à l'un et l'être, l'un et la forme, l'un et la quantité. Alors, voyez ce que Aristote dit à propos, vous allez mieux comprendre, comment Aristote, à propos du mouvement circulaire. Il dit que c'est un mouvement uniforme. Et parce qu'il est uniforme, il peut être éternel. Et il est cause exemplaire de tous les autres mouvements. Oui, c'est le premier mouvement. Donc, il y a, dans l'ordre de la qualité, il est premier. Et il est cause exemplaire. Tout ce qui est premier dans l'ordre qualitatif joue le rôle de cause exemplaire. Et c'est pour ça qu'en dernier lieu, le premier dans l'ordre de la forme, c'est la forme purifiée portée dans l'intelligence. Je n'en dis pas plus. Nous allons entrer maintenant le dernier problème de l'analyse métaphysique, le problème de la personne humaine. Vous comprenez que c'est très important, ça. C'est très important, c'est le problème évidemment qui nous touche le plus. J'aurais pu commencer la métaphysique par la personne. Alors là, ça vous aurait intéressé beaucoup, mais c'était très dangereux. parce que nous avons une telle proportion, une telle propension aujourd'hui à ne regarder que la personne humaine et à ne plus regarder l'être. Alors il valait mieux regarder d'abord l'être et puis essayer ensuite de comprendre que un regard profond sur l'être me permet d'avoir un nouveau regard sur la personne. Et c'est vrai. Alors le problème de la personne devient dans notre monde d'aujourd'hui, indépendamment, je vais ensuite le situer, hein, indépendamment de ce que nous disons, le problème de la personne humaine est un problème qui de fait est peut-être le problème propre de notre monde d'aujourd'hui. Si la métaphysique a explicité quelque chose de propre dans notre monde d'aujourd'hui, c'est le problème de la personne. Ce n'est pas le problème de l'acte, ce n'est pas le problème de l'ousia, ce n'est pas le problème de l'âme. Donc il ne reste plus que la personne. Et croyez bien que je ne le mets pas là parce que pour me montrer que je suis d'accord avec les modernes, et donc, vous voyez bien, je retouche les modernes, c'est vrai que le problème métaphysique a pris cette espèce d'extension. Regardez dans toute la scolastique, vous ne verrez pas le problème de la personne situé en philosophie première. C'est une option très grave de mettre le problème de la personne en philosophie première. J'en suis parfaitement conscient. Et je dis, il le faut. Alors, est-ce que le problème de la personne va nous apporter... Je pose quelques questions pour que vous puissiez les résoudre vous-même. Parce qu'autrement, vous direz, ah oui, après le problème de l'un, c'est le problème de la personne, c'est normal. Il reste ce problème-là, il reste ces miettes. Alors, la grosse miette, c'est la personne. Enfin, la grosse miette qui reste, oui, les miettes, hein, les choses qu'on n'a pas traitées, on a laissé tomber, on a laissé traiter des quantités d'accidents, il s'agit de tout ramasser ça dans des corbeilles, et puis on a la personne, en définitive. Est-ce que le problème de la personne va nous donner un nouveau principe propre au niveau philosophie première? Où se situe en philosophie première le problème de la personne? Ça, c'est important de savoir ça. Où ça se situe? Ce qui est très, très gênant, vous voyez, c'est que je n'ai personne qui me dit ça se situe là. Saint Thomas ne le dit pas. Il y a toute une vision métaphysique de la personne dans Saint Thomas. Mais les thomistes, même Suaret, n'ont pas fait un traité de la personne au niveau métaphysique. Ils ont oublié l'oubli de la personne. Ce n'est pas l'oubli de l'être, c'est l'oubli de la personne au niveau métaphysique. Alors je croirais beaucoup plus ça. Alors que c'est traité. Alors il s'agit de comprendre où se situe le problème de la personne dans une perspective de philosophie première au niveau de l'analyse. Ce que nous avons fait. Nous avons analysé ce qui est en tant qu'être. Nous avons saisi ses principes propres. Alors, y a-t-il un nouveau principe? Ou est-ce que la personne fait cette chose extraordinaire? C'est peut-être ça que ça fait, la personne. J'ai cherché l'être. J'ai cherché ce qui est en tant qu'être. J'ai essayé, en bon chien de chasse, de voir ce gibier très caché, qui est l'être. Qui est le gibier propre de l'intelligence, hein, pour prendre le langage de Platon, métaphorique. L'intelligence se nourrit de ce qui est en tant qu'être. Et tant que l'intelligence n'a pas découvert ce qui est en tant qu'être, l'intelligence n'a pas saisi son os propre. Saisi des choses gélatineuses, mais n'a pas saisi son os propre. Alors si on a le désir de vraiment se faire les dents, c'est ce que Platon dit, les dents qui poussent. Vous voyez, les dents au niveau de l'intelligence, il faut découvrir ce qui est en tant qu'être. Et on interroge ce qui est en tant qu'être pour découvrir les principes propres de ce qui est en tant qu'être. Ces principes, ousia, acte. Alors, y a-t-il un nouveau principe? La personne. Bon, ça va pas. Mais est-ce que avec le problème de la personne, il ne va pas y avoir quelque chose de très curieux? L'intelligence attend l'être. Elle est ordonnée à l'être. Elle est à l'écoute de l'être. La philosophie première me met à l'écoute de l'être. C'est particulier. Téléphoner avec l'être, à l'écoute de l'être. C'est extraordinaire d'écouter l'être. Et de découvrir ces deux principes propres, l'ousia et l'acte. Alors, est-ce qu'avec la perspective de la personne, va-t-il y avoir quelque chose de nouveau, complètement d'inversé? L'esprit qui va passer avant l'être. Jusque-là, je m'étais à l'écoute de l'être. Oui, mais je me mets à l'écoute de l'être, pourquoi? Pour être pleinement moi-même. Pour que mon intelligence soit parfaitement elle-même. Et mon intelligence devenant parfaitement elle-même, puisque mon intelligence est mon esprit. Alors à ce moment-là, le problème de la personne ne va-t-il pas montrer comment c'est vrai? L'intelligence passe avant l'être. Elle découvre l'être pour se l'assimiler. Et une fois qu'elle a assimilé l'être en saisissant ces deux principes, elle passe devant. Voilà le problème de la personne. C'est assez extraordinaire, ça. Est-ce que la personne, ce n'est pas justement le fait... Faites attention, hein, je ne dis pas la vérité. Hein, mais je vous pose un problème qui est très important, qui est très très important. Vous voyez des visages blêmir, alors je dis, c'est ennuyeux, n'est-ce pas? Je plaide une cause perdue d'avance. Je plaide une cause qui est la cause moderne. Qui fait que, c'est très vrai, on est passé de l'être à l'esprit. Donc on est passé de l'être à la personne. Alors pendant des siècles et des siècles, l'intelligence s'est mise docilement à l'écoute de l'être. Elle s'est engraissée, et puis tout d'un coup, elle s'est dit, mais je suis une personne. Et alors à ce moment-là, l'esprit domine l'être. Oui, l'esprit domine la subjectivité transcendantale. La subjectivité transcendantale, c'est bien l'esprit qui comprend son autonomie d'esprit par rapport à l'être. Oui, c'est très très joli de regarder l'histoire de notre philosophie occidentale de cette manière-là. La métaphysique s'éteint, puisqu'on doit assister à la mort de la métaphysique. On doit y assister. Alors, la métaphysique s'éteint par le problème de la personne qui passe devant l'être. L'esprit doit passer devant l'être. L'esprit, c'est la domination à l'égard de l'être. L'esprit doit nécessairement arriver à être premier. Ce n'est plus l'être qui est premier, c'est l'esprit. Et donc, il faut là une inversion qui se fait. Je vous dis, c'est très important de saisir ça. C'est quand même très important de saisir qu'il y a quelque chose de très extraordinaire dans le fait d'abord de regarder l'être et de voir comment l'être va me permettre de comprendre ce que c'est que l'esprit. Et le moment où je comprends ce que c'est que l'esprit, est-ce que l'esprit ne va pas dire, mais quoi? C'est moi l'être premier. Je domine tous les autres êtres. Alors je ne vais quand même pas continuer d'être à l'école de tous ces êtres inférieurs à moi. Et je saisis qu'il y a quelque chose de premier dans l'esprit, et donc c'est le problème de la personne. Alors est-ce que le problème de la personne ne va pas faire une révolution interne dans l'ordre métaphysique? Est-ce que le problème de la personne ne va pas faire que juste tout ce que je disais jusque-là va être nécessairement repris autrement? Le primat de l'esprit sur l'être. Il faut se poser la question. C'est une solution. On essaiera de comprendre. Et ceci, c'est parce que justement, la personne ne peut pas être un principe. Si la personne n'est pas un principe, ça prouve que je découvre quelque chose qui dépasse l'être, qui est le problème de la personne humaine. Bon, alors essayons, pour bien traiter cette question, un tout petit point de vue historique qui me semble important à souligner. Vous savez bien que le problème de la personne dans la philosophie grecque ne s'est posé explicitement qu'avec les stoïciens. C'est la philosophie stoïcienne qui met en lumière le problème de la personne. C'est la philosophie stoïcienne qui met en pleine lumière le problème de la volonté. C'est la philosophie stoïcienne qui met en pleine lumière le problème de la liberté. C'est avec le problème de la volonté et le problème de la liberté, explicitement, je veux dire, que le problème de la personne va se nouer. Si vous regardez la philosophie de Platon, si vous regardez la philosophie d'Aristote, le mot « personne » n'est pas présent. La réalité est présente, mais pas le mot. C'est intéressant, du reste, ça. C'est toujours très intéressant de voir comment la réalité est présente et le mot n'est pas présent. Parce que ça permet peut-être de mieux saisir la réalité quand le mot n'est pas présent. Quand le mot est présent, on risque de ne plus s'arrêter qu'au mot. Mais c'est vrai que dans Aristote, le problème de la personne est présent. Il est présent dans le problème de l'ami, la philia. Il est présent dans le problème de la contemplation et du bonheur. Ça, c'est sûr. Mais il n'est pas explicité. Aristote ne dit pas, c'est le propre de la personne d'avoir un bonheur, d'avoir un droit au bonheur. C'est le propre de la personne d'être capable d'aimer une autre personne humaine. Aristote ne le dit pas. Donc, le problème de la personne n'est pas, si je regarde uniquement les mots. Vous savez bien que le mot « personne », « prosopone », veut dire en premier lieu le masque. On joue un rôle. Oui, c'est ça, on joue un rôle. Pour beaucoup de personnes, leur personne, c'est jouer un rôle. Et quand le rôle est terminé, la personne se dégonfle. Mais ça explique des quantités de choses, ça. On joue un rôle. Alors, si on vous met à la retraite, c'est très embêtant. Parce que vous jouiez ce rôle particulier, vous étiez professeur. On vous met à la retraite, le professeur doit se dégonfler. Et alors, si toute la personne est identifiée au professeur, à ce moment-là, la personne n'existe plus. Néantisation de la personne par le point de vue de la fonction qui disparaît. C'est très vrai que très souvent, la personne, c'est une fonction. Et il faut bien voir que le mot commence par la fonction. Donc ça prouve qu'il y a une petite analogie, métaphorique, petite analogie. Le lac rit. La personne, c'est le masque. Vous voyez ? Vous avez un masque étonnant, vous jouez ce masque étonnant. Et plus on a une fonction importante, plus le masque est énorme. Et plus c'est difficile de garder sa propre personnalité au-delà du masque. Et plus on risque d'être étouffé par le masque. Donc c'est intéressant de voir ce point de vue au point de vue étymologique. La personne, c'est d'abord le masque, jouer une fonction, jouer un rôle particulier. Jouer un rôle particulier. Alors, ensuite, la personne va s'expliciter avec les stoïciens. Et les stoïciens, c'est le problème de la volonté. Et vous voyez que la personne va apparaître dans le fait de se dominer soi-même. La personne, c'est celle qui domine ses actes. Mais au fond, ce n'est pas très développé chez les stoïciens. Mais c'est quand même intéressant de voir que la personne se développe chez les stoïciens au moment où l'on comprend la première internationale. Citoyen du monde entier. Il ne faut pas l'oublier. Jusque-là, les Grecs considéraient que les autres étaient barbares. On est toujours un peu grec. N'est-ce pas ? On considère toujours que les autres sont un peu barbares. Ceux qui ne sont pas de notre avis. Alors, ils sont barbares. C'est très curieux le problème grec. Les Grecs considèrent que les autres sont des barbares. Eh bien, à l'intérieur de la Grèce, il y a eu cette révolution extraordinaire des stoïciens. Qui se considèrent comme des citoyens du monde. Et c'est curieux que ça va avec la découverte de la personne. Là aussi, il y a quelque chose de très intéressant à voir. La personne, c'est le dépassement de ce que représente le lien avec un pays. Le lien d'être considéré comme bien-né. Le lien de séparation des gens qui sont des barbares et des gens qui sont libres. C'est d'aller au-delà et découvrir qu'il y a quelque chose de plus fondamental. Historiquement, c'est comme ça que ça se présente. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien. Je regarde les connexions historiques, c'est toujours intéressant. Le fait, c'est comme ça. Le développement de la personne se fera surtout chez les théologiens. Le problème de la personne s'est fait surtout chez les théologiens et on comprend très bien pourquoi. Le problème de l'incarnation, d'essayer de comprendre comment deux natures peuvent être une dans une personne. L'union hypostatique. Alors voyez qu'ici il y aurait un problème extrêmement intéressant, c'est de voir le passage des mots grecs aux mots latins. Hypostasis. Le mot hypostasis. L'union hypostatique. Alors, c'est dans l'hypostase que se fait l'unité des deux natures pour le mystère de l'incarnation. Hypostasis veut dire non pas substance, non pas nature, mais veut dire quelque chose d'autre. La manière particulière dont un esprit subsiste. Il subsiste dans une autonomie profonde qu'est la personne. Hypostasis. Alors, il y aurait beaucoup de choses à voir sur l'étymologie du mot hypostasis. Vous voyez bien hypostasis, hein ?